Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les Chemins de la philosophie vous proposent de redécouvrir aujourd'hui une émission sur le mystère Vermeer dans l'atelier de l'artiste en compagnie de l'historien de l'art Yann Blanc. Bonjour Yann Blanc, bienvenue sur les chemins de la philosophie. Quel est votre tableau préféré de Vermeer?
Ça n'est pas facile. Peut-être l'art de peinture, ça n'est pas un choix très original, mais c'est tout de même, me semble-t-il, le tableau que chérissait le plus Vermeer, au point d'ailleurs de l'avoir conservé dans ses biens. Et sa femme a eu bien du mal à s'en séparer après sa mort. Et il me semble que c'est un vrai tableau manifeste où il y a à peu près tout ce que l'on peut imaginer autour de Vermeer. Donc c'est probablement pour cela.
Merci d'être avec nous. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes professeur ordinaire d'histoire de l'art, doyen de la faculté de lettres à l'Université de Genève. Comment on peut être doyen d'une faculté de lettres quand on est si jeune et historien de l'art?
Ça doit être un accident de la vie, sans doute.
Bon, en tout cas, je suis ravie que vous ayez accepté de relever le défi de la peinture à la radio. Vous êtes l'auteur d'un sublime ouvrage sur Vermeer, intitulé « La fabrique de la gloire » aux éditions Citadel et Masno, tellement bien fait qu'on a l'impression d'être au musée du Louvre, hein, avec des explications et sans faire la queue. Et c'est vous qui allez nous guider dans cette exposition personnelle à l'image de Vermeer, dans son atelier, sa ville natale. Alors de Vermeer, pendant longtemps, on ne savait rien. Si bien que le premier mot qui venait à l'esprit quand on évoquait le peintre, c'était celui de mystère. Et pourtant...
Il n'y a pas de mystère Vermeer, car il n'y a jamais de mystère en peinture. Ici, tout est là, à portée de regard, dans l'effet de miroir d'une surface. Pas de secret, pas d'invisible et aucun indicible. Seulement la grande autonomie de la peinture et pour mieux dire, peut-être du regard, face à tous les aveuglements de la raison.
Alors Yann Blanc, y a-t-il ou non un mystère Vermeer?
Il y a eu un mystère Vermeer. Je pense qu'il faut quand même souligner à quel point ce peintre, après sa mort en 1676, est pratiquement disparu de l'horizon de l'histoire de l'art. Pour des raisons qui sont liées au fait que l'essentiel de ses tableaux se trouvait dans quelques collections privées néerlandaises qui ne sont pas passées dans les grandes collections princières et royales, et que donc ces tableaux n'étaient visibles que par un nombre très limité de spectateurs. Donc dès après sa mort, son nom disparaît complètement de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, et il faut attendre la toute fin du XVIIIe siècle pour voir deux tableaux réapparaître sur le marché de l'art parisien, l'astronome et le géographe, et pour voir aussitôt le nom de Vermeer réapparaître, même s'il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour qu'on s'y intéresse vraiment de façon effective. Et donc lorsque Thoré Burger, qui est ce grand critique d'art français, redécouvre Vermeer autour des années 1840, il est frappé par cette opposition, cette dichotomie entre des œuvres qu'il trouve admirables et un nom qui lui est totalement inconnu. Il parle d'un autre grand artiste, un original incomparable, un inconnu de génie. Donc évidemment, il y a un mystère de ce point de vue à éclaircir. Et ce mystère, depuis, a été éclairci grâce aux travaux des historiens de l'art, grâce aux travaux notamment d'un grand économiste, un grand spécialiste du marché de l'art qui s'appelait John Michael Montias, qui s'est pendant des années plongé dans les archives municipales de Delft. Il a redécouvert toute une série de documents qui font qu'aujourd'hui, Vermeer est paradoxalement l'un des peintres néerlandais du XVIIe siècle les mieux connus. On connaît quasiment toute sa vie, à l'exception de quelques éléments sur lesquels on reviendra peut-être. On sait les conditions de son mariage, sa conversion au catholicisme, on sait sa fortune, on sait ses amis, on sait ses mécènes, on sait quand il emménage chez sa belle-mère, on sait le nombre de ses enfants, les prénoms de ses enfants, on sait même le détail de l'inventaire des pièces de la maison dans laquelle il a vécu. Bref, on sait énormément de choses. Donc de ce point de vue, il n'y a plus de mystère sur la vie de Vermeer. Mais en revanche...
Mais il y en a eu un. Le mystère, c'est peut-être pourquoi est-il tombé dans l'oubli?
Alors, il est tombé dans l'oubli précisément parce qu'il a eu, au cours de sa vie, il a suivi une stratégie de carrière assez différente de pas mal de ses contemporains, notamment de Rembrandt. Rembrandt, vous le savez, c'est un artiste qui est devenu très connu très vite parce qu'il s'est adressé pas simplement à un nombre très limité de mécènes ou de commanditaires, mais grâce à la gravure notamment, il a acquis une réputation européenne. Donc de ce fait, après sa mort, son nom était toujours là. Vermeer, lui, fait un choix absolument opposé qui consiste à dire « je vais me concentrer sur certains mécènes bien spécifiques » avec lesquels je vais entretenir une relation privilégiée. Et donc, l'un de ses principaux mécènes, c'est Peter Klaas van Reuven, qui est un riche citoyen delftois, un contemporain de Vermeer, qui va devenir son ami, qui va lui faire des avances financières, qui va même lui donner un peu d'argent dans son testament, et pour lequel Vermeer va peindre une grande partie de ses œuvres, hein, presque probablement deux tiers de ses œuvres. Et donc, de ce fait, les Vermeer, à la mort de Vermeer, ils s'ouvrent presque que dans quelques collections privées. Et vous le savez, l'histoire de l'art s'est constituée, à partir du XVIIIe siècle, d'abord sur l'inventaire des grandes collections royales et princières européennes. Et c'est à partir de ces collections qu'on va réécrire des recueils de vie, de biographies, que les noms vont sortir de l'inconnu et de l'oubli, et qu'on va constituer cette grande classification. Or, le nom de Vermeer n'apparaît dans aucune de ces collections à l'époque, quasiment dans aucune de ces collections. Si bien que son nom n'est pas présent. Et donc, c'est au fond une sorte d'amnésie qui est due au fait que Vermeer a réussi à cette carrière magnifique de son vivant grâce à cette stratégie de niche, mais qu'après sa mort, effectivement, cette stratégie devenait totalement plonger son nom dans l'oubli, finalement. Donc, c'est cette raison, tout simplement, de cette stratégie de carrière qu'il a suivie qui l'a plongé dans l'oubli et l'amnésie.
Le mystère, parce que décidément, c'est un bon point de départ pour parler de Vermeer, il est aussi, sans doute, au sein même de l'œuvre de Vermeer, non pas tellement dans sa technique de peinture, parce qu'on en sait beaucoup, et vous en savez peut-être plus que d'autres, Yann Blond, énormément quant à sa manière de peindre, on y reviendra, mais c'est aussi le mystère d'une supposée du message même du tableau, ce qui est toujours un peu absurde, hein, quand on dit mais qu'est-ce que le tableau veut dire. L'extrait qui a ouvert cette émission, c'est un extrait de la pièce de théâtre Vermeer et Spinoza de Gilles Ayot. Ce que cet extrait disait en disant qu'il n'avait pas de mystère Vermeer, ça veut dire que chez Vermeer, tout est là. Tout est donné. Ce que Vermeer peint, c'est ce que nous voyons. Il n'y a pas, pour le dire autrement, de transcendance.
Oui, alors, c'est peut-être là que j'aurais tendance à nuancer le propos. Alors, effectivement, il n'y a pas de mystère au sens étymologique du terme, ou tout du moins dans la plupart de ces tableaux. Il n'y a pas un rapport à une transcendance religieuse, même si certains de ces tableaux ont probablement cette connotation, ce contenu religieux. Il y a certains tableaux religieux et certains tableaux dans lesquels se trouvent des images religieuses. Donc cet aspect n'est sans doute pas totalement absent de son œuvre. Mais effectivement, ce qui caractérise l'œuvre de Vermeer, c'est par rapport à celle de ses contemporains, sans doute, c'est que c'est une œuvre qui n'est pas un ensemble de codes ou de symboles. Ça n'est pas une œuvre qui cherche à communiquer un message. Ça n'est pas une œuvre qui cherche à fabriquer un ensemble de signes qui pourraient être assez aisément déchiffrés par le spectateur pour produire une sorte de message, de communication. Vermeer, au contraire, est quelqu'un qui s'intéresse à la simplification, à l'économie des moyens. Et lorsque l'on regarde la manière dont il peint ses tableaux, je pense au tableau dès le début de sa carrière, à la lectrice en bleu, par exemple, on constate que progressivement, au fur et à mesure qu'il peint l'œuvre, il va enlever des éléments auxquels il pensait au départ, mais qu'il enlève pour éviter que son tableau n'apparaisse comme une sorte de discours mis en image. Dans La Servante endormie, qui est un autre tableau du début de sa carrière, en fait, il y a tout un message autour de l'amour. Mais dans un premier temps, il avait pensé mettre donc une servante endormie sur une table. Derrière se trouve un tableau avec un masque et le pied d'un Cupidon. Donc on pense tout de suite, on se pose la question de savoir pourquoi est-elle endormie. Est-ce qu'elle pense à l'homme qu'elle aime? Ou est-ce qu'elle a été conduite par l'homme qu'elle aime? Le tableau ne donne pas d'éléments précis. Mais dans un premier temps, Vermeer avait placé dans l'embrasure d'une porte la silhouette d'un homme chapeauté. Et donc, évidemment, la silhouette de cet homme aurait tout de suite fabriqué un message beaucoup plus clair. Il l'a enlevé, il l'a effacé, et l'embrasure de la porte est désormais déserte. De ce fait, vous le voyez, on n'est plus face à un tableau qui nous dit quelque chose de façon univoque, mais un tableau qui assume son ambivalence. Et cette ambivalence, c'est une des grandes caractéristiques de l'art de Vermeer, qu'on retrouve chez d'autres artistes, hein, chez Gérard Terborch notamment, que l'on peut voir aujourd'hui dans l'exposition du Louvre. Enfin, toutes personnes qui peuvent entrer dans l'exposition.
Oui, parce qu'il y a tellement de monde, je crois qu'il est très difficile d'entrer dans l'exposition.
Voilà, donc là, le mystère reste entier pour les personnes qui n'entrent pas dans l'exposition. Mais il est vrai que chez certains de ces artistes hollandais, il y a un travail, alors je ne dirais pas du mystère, parce que je pense que ce n'est pas une notion vraiment pertinente, mais plutôt de l'énigme. Je pense que c'est la notion d'énigme qui vaut
ici. Alors, quelle différence entre le mystère et l'énigme ?
L'énigme, c'est d'abord quelque chose dont on parle au XVIIe siècle et qui est très courant. On le trouve d'abord, c'est un exercice que les jésuites pratiquaient beaucoup pour éduquer. L'énigme, ça n'est pas une devinette, hein. L'idée, c'est pas de trouver une solution. L'énigme, c'est de faire travailler son inventivité pour essayer d'interpréter un texte ou une image. Et donc, cette énigme, on la trouve dans le domaine de l'éducation, on la trouve dans le domaine de la littérature, on publie beaucoup de recueils d'énigmes. Et ce que l'on aime dans ces énigmes, c'est pas forcément trouver la solution d'une devinette, c'est faire travailler son imagination. Essayer de travailler avec un texte, avec un discours, voire avec une image.
Alors, prenons un exemple. Prenons un tableau de Vermeer qui fonctionne comme une énigme. Alors, il y en a plusieurs, celui de votre choix, le géographe ou l'astronome, par exemple, qui sont des tableaux extrêmement composés avec beaucoup de détails. Et on se dit qu'il y a quelque chose à comprendre derrière.
Voilà, l'astronome est un cas tout à fait intéressant.
Prenons l'astronome. Enfin, 1668, je ne sais pas si la date est exacte, c'est difficile de les dater.
66-68, puisqu'il y a des chiffres romains, mais on n'est pas certain des deux derniers bâtons. Donc, c'est 66 ou 68. Mais c'est en tout cas un tableau de la dernière partie de la carrière de Vermeer. Alors, là, je précise d'abord que le titre est un titre apocryphe, hein, comme le titre de tous les tableaux de Vermeer, sauf un, l'art de peinture, qui est désigné comme tel dans un inventaire après décès. Donc les titres, forcément, vont influencer notre interprétation. Hein. Est-ce que c'est un astronome ? Alors, c'est en tout cas quelqu'un qui touche de ses doigts un globe céleste, hein, donc c'est pas un globe terrestre, c'est la raison pour laquelle on a identifié un astronome. Sans doute calcule-t-il un angle sur ce globe céleste, il a devant lui toute une série de livres que d'ailleurs on a identifiés, donc c'est des livres qui ont véritablement existé, il est dans sa chambre, on voit à l'arrière-plan accroché à une armoire également une carte, donc on se dit, bon, c'est un savant. D'ailleurs, on a considéré, les historiens de l'art ont considéré à partir du 19e siècle qu'il pouvait s'agir du portrait, ou tout du moins du modèle d'Antony van Leeuwenhoek, qui était un des amis de Vermeer, qui était un grand savant, quelqu'un qui avait réalisé de nombreuses expériences au microscope, et qui est d'ailleurs l'exécuteur testamentaire de Vermeer. Donc on se dit, ça peut être lui. Et comme le visage était assez similaire aussi au géographe, on s'est dit que cet ami avait posé pour ces deux personnages.
C'est vrai que les deux se ressemblent en tout cas.
Ils se ressemblent,
même modèle.
Exactement. Tout semble simple, et on voit cette lumière tamisée, mais assez forte tout de même, qui traverse la fenêtre et qui frappe donc le globe, les mains et le visage donc de cette soi-disant astronome. Mais il y a un petit élément intéressant, qu'on ne le voit pas forcément dans toutes les images, qui est à l'arrière-plan la représentation d'un tableau. Et ce tableau, c'est un Moïse sauvé des eaux. Et voilà, tout typiquement, c'est un montage que Vermeer fait très souvent dans ses tableaux. C'est-à-dire qu'il nous montre une scène, puis à l'arrière-plan, il la commente d'un autre tableau, voire de plusieurs autres tableaux. Des cupidons, des entremetteuses, ce Moïse sauvé des eaux qui est réutilisé d'ailleurs dans une autre œuvre. Hein, c'est un Moïse sauvé des eaux de Peter Lely, qui est un peintre contemporain, qui probablement est un tableau qui serait soit dans la collection de Vermeer, soit surtout probablement dans une autre collection de Delft. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de mettre un Moïse sauvé des eaux ici ? Quel est le sens qu'on va produire ? Est-ce que c'est simplement un tableau accroché au mur, ce savant est un collectionneur ? Moïse est considéré dans la Bible et dans des textes exégétiques comme un des premiers astronomes. C'est un homme qui regardait le ciel et qui observait le ciel. Donc, une première manière d'expliquer le tableau, c'est de se dire, au fond, il y a simplement une sorte de définition religieuse du travail de l'astronome. Donc l'astronome serait, de ce point de vue, celui qui nous est représenté par Vermeer, le descendant de Moïse. Bon. Et donc dans ce cas-là, la lumière qui traverse et qui entre dans la pièce serait la lumière céleste, la lumière divine. Hein. Bon. Mais on pourrait très bien considérer à l'inverse, et rien ne nous empêche de développer cette interprétation, que c'est plutôt un lien dichotomique. À savoir que le Moïse sauvé des eaux, l'ancienne astronomie qui n'est pas loin de l'astrologie, est reléguée à l'arrière-plan, dans la pénombre, sur le mur, et que, au premier plan, se trouve représentée une version moderne de l'astronomie, fondée sur l'observation visuelle, sur le calcul des angles, et donc de ce point de vue, la lumière qui entre dans la pièce n'est pas la lumière de Dieu, mais peut-être simplement la lumière naturelle de la raison.
Je précise que ce tableau se trouve en ligne, hein, sur le site des Chemins de la Philosophie, pour qu'on puisse regarder le tableau en vous écoutant. Yann Blanc a essayé de décrypter cette peinture. Alors c'est vrai que là, il y a deux façons complètement différentes de regarder le tableau. Soit de se laisser émerveiller par les détails, les couleurs, qui ont une importance évidemment décisive chez Vermeer, comme chez tous les peintres, mais aussi en essayant de plaquer comme un raisonnement. Hein. Vous parlez de la raison, d'une sorte d'intelligence, voire de lumière naturelle, qui était un terme beaucoup employé à l'époque chez les philosophes contemporains de Vermeer, dont Spinoza, qui d'ailleurs plus que contemporain, même compatriote, hein, enfin, à Delft. La question est de savoir à quel moment est-ce qu'on tombe dans la surinterprétation. Est-ce que ces énigmes dont vous parlez ont pour vocation à rester énigmatiques, ou bien peut-on, et c'est assez jouissif de le faire quand même, hein, découvrir et donc prétendre détenir un sens de cette œuvre ?
Alors, je pense qu'il faudrait sans doute essayer de définir le rapport que l'on entretenait au XVIIe siècle aux œuvres, parce que je pense que ce rapport nous dit beaucoup des œuvres elles-mêmes. Vous avez, disons, pour aller vite, dans ce type de représentation, dans ce qu'on a appelé au XVIIIe siècle des scènes de genre, mais il faut bien se souvenir que cette notion, cette catégorie n'existe pas au XVIIe siècle, disons ces scènes de la vie quotidienne ou ces scènes de la vie ordinaire, vous avez, grosso modo et pour simplifier, deux rapports possibles au sens ou à la signification. Vous avez d'un côté des artistes qui, comme Jan Steen ou Peter de Hoogh, aiment produire des tableaux clairs, limpides et explicites. dont les idées sont claires et distinctes, pour paraphraser Descartes. Et donc, de ce point de vue-là, l'interprétation est en général très simple, parce qu'on multiplie toute une série de signes qui vont aller dans une direction. La condamnation de l'adultère, la représentation d'une femme légère, ça tombe très souvent autour d'une condamnation ou des éloges, soit des femmes vertueuses, soit des femmes infidèles.
C'est très moral.
C'est très moral. On est quand même dans un pays dont l'Église publique est l'Église réformée de Hollande, et donc il y a évidemment, dans certains cas, pas toujours, pas autant qu'on ne l'a pensé, mais une forme de moralisme. Bon. Et puis, donc, là, on est dans un cadre où, finalement, le tableau s'interprète relativement facilement. D'ailleurs, les historiens de l'art ne se sont pas privés pour les interpréter assez facilement. Mais vous avez d'autres cas de figure, d'autres tableaux. Je parlais de Vermeer, je parlais de Terborch, qui, eux, proposent des tableaux où le caractère de la signification est indécidable, me semble-t-il. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les historiens de l'art ou les spectateurs n'avaient rien à dire de ces œuvres et devaient simplement exalter ou admirer la beauté formelle? C'est possible. Il est certain que ces œuvres étaient d'abord collectionnées pour leur qualité formelle, mais je ne suis pas certain qu'on distinguait le fond et la forme. Et au XVIIe siècle, très souvent, on parle des tableaux en utilisant l'expression de conversation. Roger de Pile, un amateur d'art français de l'époque, qui d'ailleurs passe aux Pays-Bas, qui est un grand collectionneur de Rembrandt, parle des conversations sur la peinture, mais il parle aussi de la conversation avec la peinture. Autrement dit, regarder un tableau à l'époque, c'est produire, d'une manière ou d'une autre, un discours autour de l'œuvre, mais aussi avec l'œuvre. Et donc, ça n'est pas une surinterprétation que de fabriquer un discours avec l'œuvre, que d'essayer de trouver ce que l'œuvre représente, voir ce qu'elle signifie, c'est au contraire collaborer avec elle. Donc, on est, à mon avis, c'est plutôt dans cette direction qu'il faut aller. Il faut pas penser que l'historien de l'art ou que le spectateur vont fausser l'œuvre en lui ajoutant des éléments. Ces éléments-là, cette place que le spectateur trouve dans l'œuvre, le peintre l'a voulu. Et donc, d'une certaine manière, c'est activer ses œuvres aujourd'hui que d'essayer de parler avec elles.
Mais c'est une querelle, en tout cas, qui a cours quant à savoir comment interpréter un tableau. Est-ce que la couleur domine le trait? Est-ce que le dessin est plus important que la couleur? Est-ce que c'est l'intellect, en clair, hein, qui doit déchiffrer le tableau, ou bien les sens qui doivent l'accueillir et être attentifs à la dimension esthétique du tableau?
Oui, c'est un débat qui est effectivement fortement théorisé en France à la même période. Aux Pays-Bas, c'est moins clair, c'est moins évident, parce que, en fait, on ne distingue pas vraiment dessin et coloris. Tous ces peintres pensent comme des peintres, c'est-à-dire comme des coloristes en réalité, et pour eux, le dessin est une part du coloris. D'une certaine façon, c'est intéressant, d'ailleurs, Vermeer, on n'a conservé aucun dessin préparatoire.
Ah oui.
Donc c'est quelqu'un qui peint directement sur la toile, très probablement, en tout cas c'est ce qu'on pense, et il repeint très régulièrement, très lentement, très minutieusement ses tableaux, et donc l'idée n'est pas préalable à l'œuvre, c'est pas dans cette conception du design au italien, du dessin français, où au fond le tableau est la traduction finale d'une pensée préalable. Il est plutôt dans une sorte de recherche empirique, immanente à l'œuvre elle-même, où l'idée est au fond découverte au fur et à mesure du travail sur la matière et avec la matière.
Et ça, c'est culturel? Il y a vraiment une distinction entre les peintres français, les peintres néerlandais, les peintres italiens?
Je ne crois pas. Chez Léonard de Vinci, il y a déjà cette idée selon laquelle la peinture est une causa mentale, une chose mentale, mais une chose mentale qui passe aussi par le travail du dessin. Le dessin va aider la chose mentale à se construire et à se définir. Il ne s'agit pas simplement d'exprimer l'idée en la faisant sortir de la cervelle de l'artiste. Elle se construit à l'intérieur même du dessin. On trouve cela également en France, chez certains artistes, effectivement. Roger de Pile en parle. Il parle de Rubens aussi. Pour lui, c'est son grand modèle. Mais c'est vrai qu'aux Pays-Bas, il y a une spécificité, une singularité, qui est au fond une distinction moins forte que dans les autres pays, entre ce qu'on a appelé depuis le Moyen-Âge les arts mécaniques et les arts libéraux. Les arts libéraux, c'est les arts de l'esprit, si vous voulez, et les arts mécaniques, c'est étymologiquement les arts de la main. D'un côté, les arts, ce qu'on appellera plus tard les arts, et de côté, ce qu'on appellera plus tard les métiers ou les artisanats. Les Hollandais ont une une définition de l'art qui est entre ces deux catégories. Ils n'ont pas honte de la dimension manuelle, matérielle,
artisanale,
bricolé de la peinture. Il y a évidemment des peintres hollandais qui défendent, comme les Italiens et les Français, la primauté de l'intellect, de l'idée. Et il y en a beaucoup d'ailleurs, y compris et d'abord chez ceux qui se sont formés en Italie, qui ont fait un voyage en Italie, ou qui ont été marqués par des artistes italiens ou français. Mais il me semble que c'est moins une question nationale qu'une question de mise en place, de développement d'un certain art en un contexte spécifique qui est le contexte de ces Provinces-Unies du XVIIe siècle, où on peint moins de tableaux pour les églises parce qu'il n'y a pas d'église officielle. Dans les temples, il n'y a pas de tableaux religieux. Il n'y a pas une véritable cour telle qu'on en trouve, par exemple, en France ou en Italie. Et donc, les artistes sont confrontés à des tableaux et des sujets qui sont souvent des sujets moins nobles, moins sujets à la transcendance, tout simplement. Et donc, je pense que ces artistes ont développé des qualités et des talents différents, et notamment un rapport différent à l'exécution. L'exécution devient un élément primordial chez eux. Et donc, la dimension technique joue un rôle absolument capital.
Le bureau de l'astronome baigne dans une clarté aqueuse. La lumière, omniprésente dans l'œuvre de Vermeer, se module sur divers tons et avec différents degrés d'intensité. Mais s'il y a parfois dissolution, ou du moins estompage des couleurs et des formes, ce n'est jamais dans l'ombre, comme chez Rembrandt, où la pénombre est une force en mouvement qui corrode les chairs et la matière et engloutit les formes. Chez Vermeer, c'est la clarté qui découpe les ombres, leur assigne leur place, et qui, lorsqu'elle monte à l'aigu, blanchit les couleurs et allège les formes. La lumière du dehors vient mettre de l'ordre dans l'obscur chaos du dedans. Elle est un éclairage, tantôt doux, presque poudreux, solaire ou bien lunaire, tantôt violent, acide même, qui frappe choses et personnages. Éclair physique et mental, la lumière du dehors sculpte et polit les objets et les corps, les recouvre d'un fin glacis, les moire de lueurs étincelantes, et dans le même temps, elle percute en douceur les consciences et aiguise l'attention. Elle est lucidité. Appuyée d'une main à la table couverte d'un lourd tapis aux motifs floraux de divers tons de vert, le savant effleure de l'autre main un globe céleste. Il scrute les constellations. Et l'on songe à Descartes, contemporain de Vermeer, enfermé seul dans un poêle, afin de traquer la vérité, cette insaisissable licorne. S'ébrouant de la torpeur des fausses opinions et des erreurs, il se mit à douter, c'est-à-dire à penser. Pour trouver un chemin d'accès à la vérité, il chercha d'abord un point de départ, un appui. Archimède, pour tirer le globe terrestre de sa place et le transporter en un autre lieu, ne demandait rien qu'un point qui fût fixe et assuré. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous sommes au premier temps d'une série d'émissions consacrée à Vermeer, le peintre Vermeer. Y a-t-il un mystère Vermeer? C'est la question que je pose à mon invité aujourd'hui, l'historien de l'art Yann Blanc, à qui l'on doit un ouvrage magnifique consacré à Vermeer aux éditions Citadel et Masneau, dans laquelle on trouve quasiment toutes les reproductions de Vermeer. Alors, la totalité, c'est ça? Ben voilà, elles y sont toutes, dans un papier de très bonne qualité. C'est vraiment un hommage merveilleux rendu à ce peintre. On vient d'entendre un texte de Sylvie Germain, « Patience et songe de lumière », dans lequel elle décrit, elle parle du tableau de l'astronome que nous avons évoqué ensemble, Yann Blanc, avec cette importance accordée à la lumière. Et j'aimerais qu'on y revienne, parce que c'est vrai que chez Vermeer, la lumière semble toujours venir de l'extérieur, semble être un, être toujours naturel, et deux, venir du dehors. Alors, il n'y a peut-être pas de mystère Vermeer, parce que dans la mesure où tout est devant nos yeux, dans la mesure où aussi il n'y aurait pas de transcendance, de signe vers un au-delà, et pourtant, comment interpréter cette lumière qui sans cesse vient d'ailleurs, vient du dehors du tableau comme un hors-champ déjà présent?
Alors c'est vrai que chez Vermeer, la lumière, la source de lumière n'est quasiment jamais représentée. En fait, on ne voit presque pas de ciel chez Vermeer. Il y a quelques ciels.
La vue de Delft.
La vue de Delft. Alors, le ciel y occupe une place absolument centrale et c'est précisément la raison sans doute pour laquelle on peut retenir de ce tableau une interprétation, si ce n'est religieuse, tout du moins spirituelle. C'est une possibilité. On en voit un petit peu dans la ruelle. Mais au fond, on voit assez peu de ciel. Et on en trouve beaucoup.
Parce qu'il y a peu d'extérieur. En fait, les deux tableaux que vous citez sont quasiment les seuls qui sont pas en extérieur.
Alors, on a des artistes et contemporains de Vermeer qui représentent des scènes d'intérieur à travers lesquelles on voit des fenêtres. Et donc, par exemple, Bernstein a peint un tableau où on voit le ciel et un clocher d'église. Donc, dans ce cadre, évidemment, la signification religieuse est assez difficile à ne pas retenir. Mais alors, chez Vermeer, donc, il n'y a peut-être pas la représentation des sources de lumière, mais en réalité, les sources de lumière ne sont quasiment jamais représentées au XVIIe siècle, tout simplement parce qu'on considère qu'on ne peut pas regarder le soleil en face, donc on ne peut pas le peindre. Donc, on peut éventuellement le peindre à travers des nuages, des nuées, mais vous trouverez aucun soleil dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle, sauf à travers des brumes. Donc, de ce point de vue-là, Vermeer ressemble à ses contemporains. Mais, effectivement, ce qui est intéressant chez lui, c'est l'usage qu'il fait de la lumière. Et effectivement, ce qui est intéressant dans le texte de Sylvie Germain, comme dans d'autres textes qui s'intéressent à cette question de la lumière, c'est l'usage de la lumière comme un moyen scénographique, pour ainsi dire. Ce qui est absolument passionnant chez Vermeer, c'est la façon dont la lumière est utilisée de manière extraordinairement variée pour mettre en scène, mettre en valeur des éléments particuliers de la composition. Alors, Rembrandt le fait aussi, hein. Mais Rembrandt va procéder par des contrastes très importants entre le clair et l'obscur.
Voilà, on parle du clair-obscur propre à Rembrandt, c'est moins le cas chez Vermeer.
C'est moins le cas à partir, disons, des années 1660. Les premiers tableaux de Vermeer ont un clair-obscur un peu plus marqué. Donc c'est probablement lié peut-être à son apprentissage, aussi à la mode, qui à l'époque, dans les fins des années 50, Rembrandt est un peintre très à la mode, et donc il n'est pas impossible que Vermeer se plie aussi à ce diktat. Mais au fur et à mesure, il va éclaircir sa palette. On a encore quelques ombres assez marquées dans certains tableaux. Je pense notamment à la dame assise au Virginal, où il y a des noirs assez intenses. Mais de façon générale, Vermeer ne va pas chercher, comme Rembrandt, à sacrifier certaines parties de la composition. Parce que quand vous produisez un clair-obscur aussi contrasté que celui de Rembrandt, je pense au bœuf écorché que tout le monde a dans la tête, eh bien, vous sacrifiez une grande partie de la composition qui est plongée dans un noir absolu, quasiment absolu. Or, Vermeer, il veut montrer. Vous parliez tout à l'heure du mystère, de cette absence de mystère dont on parlait, dont Gilles Ayot, je crois, parlait. Oui. Le fait de vouloir montrer les choses. Je crois que Vermeer, au plus, il place dans la pénombre, mais il veut faire voir. Il veut laisser au spectateur la possibilité de voir, de comprendre éventuellement, et de fabriquer sa propre perception de l'œuvre. Et donc, de ce point de vue, il ne prive en rien le spectateur d'informations et de signes. Et donc ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que la lumière est utilisée comme un moyen de construire la composition de façon très méthodique. Deuxième élément, très important, c'est la façon, et là, il faut peut-être revenir à la genèse des œuvres, la façon dont Vermeer va mettre en place la composition de ses tableaux. À partir du début du XXe siècle, des historiens de la photographie, d'abord, ont constaté qu'il y avait dans les tableaux de Vermeer des effets optiques qui faisaient penser aux effets de la chambre noire, hein, cette boîte que l'on utilisait déjà depuis la Renaissance, qui est connue en fait depuis l'Antiquité. Les principes, en tout cas, sont connus depuis l'Antiquité. C'est en fait une sorte d'appareil sans photographique, sans possibilité d'enregistrer l'image, mais qui permet, grâce à un système de lentilles, de pouvoir regarder une image du monde à travers donc une image qui entre dans l'objet. Et on sait que ces chambres noires étaient assez collectionnées au XVIIe siècle, et il est très probable donc que Vermeer ait eu l'usage d'une de ces chambres noires. Alors, au début du XXe siècle, on pensait que Vermeer peignait ses tableaux en regardant l'image du chambre noire, ce qui est en fait impossible, et on le sait depuis quand même quelques années. D'abord parce que les chambres noires à l'époque n'étaient pas de très bonne qualité, donc l'image était souvent un peu assez floue, les images n'étaient pas suffisamment nettes. Et puis d'autre part, pour regarder une chambre noire, il faut être pratiquement dans le noir soi-même pour que l'image ait un sens. Donc ce qu'a montré Daniel Arras notamment, ce qu'ont montré d'autres historiens de l'art, c'est que très probablement, il utilisait la chambre noire comme un moyen de regarder la nature, comme une façon de la regarder sous un autre regard. Puisque la chambre noire déforme les objets, grâce au système de la lentille convexe, puisqu'elle déforme les couleurs, puisqu'elle a tendance à surexposer ou à sous-exposer les couleurs, elle va vous montrer une sorte de peinture spontanée, un peu miraculeuse, du monde, mais une peinture qui ne ressemble pas à ce que l'on voit soi-même. Et donc, il va sans doute prendre conscience du fait que la chambre noire peut lui servir d'outil pour essayer de fabriquer ses compositions. Et ce que l'on pense aujourd'hui, c'est qu'il utilisait son atelier comme un espace pour composer ses œuvres, utilisant son atelier comme une sorte de grande maquette, hein, où il plaçait des objets. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on retrouve beaucoup des vêtements, des objets et des tableaux d'un tableau à l'autre. C'est que sans doute, il les utilisait comme une sorte d'accessoires théâtraux. Il plaçait les différentes figures grâce à des mannequins dont il revêtait des habits. Et ensuite, il utilisait la chambre noire comme une façon de cadrer, si vous voulez, de chercher des cadrages comme un cadreur, dans le domaine du cinéma. Mmh. C'est-à-dire, il va y chercher des compositions comme cela. Et dans ce cadre-là, la lumière joue un rôle essentiel. On voit bien que d'un tableau à l'autre, il va fermer un volet, ouvrir un autre, intensifier la lumière. Donc la lumière lui sert ici comme un moyen, dans cette modélisation de son tableau, un moyen de créer une composition, de créer des plans, d'associer des figures les unes aux autres, d'unifier la composition, ou au contraire de créer des contrastes. Et donc, au fond, ici, la lumière, elle devient une sorte de discours. C'est presque ce qu'on appelle en linguistique une figure déictique. Elle va nous indiquer là où on peut regarder, là où il faudrait regarder. Ou au contraire, elle va nous mettre des objets dans la pénombre, donc des objets que l'on va voir dans un second temps.
Comme un projecteur, en fait.
Comme un projecteur. Et donc, il y a la construction aussi d'une narration à travers ce travail de la lumière. Donc, vous voyez à quel point la lumière, qui est pour un peintre toujours de la couleur, évidemment, donc là, la question, c'est l'opposition du clair et de l'obscur, malgré tout. La lumière sert, chez Vermeer, à non seulement fabriquer une composition, mais à intensifier la perception qu'on peut en avoir.
C'est-à-dire qu'on est vraiment à milieu du réalisme.
Ah, on est très très loin du réalisme. Alors, je vois à quoi vous faites référence, c'est-à-dire toute une littérature qui associe le monde quotidien de Vermeer au monde de ses tableaux. C'est une littérature qui n'a pas totalement tort, au sens où, comme je viens de le dire, il utilise certains éléments de sa propre vie. Je pense notamment à son atelier, même si je précise d'emblée que les pièces que l'on voit dans les tableaux de Vermeer, ce n'est pas son atelier, parce qu'il va les daller de mille et une manières. Or, les dallages de ce type, les dallages en marbre, sont des choses qu'on ne voit pas dans les maisons à l'époque. C'est extrêmement cher, et surtout, quand on en a, on n'installe pas un atelier de peintre dans ce type de pièces. Donc, si vous voulez, il faut bien prendre conscience du fait que son atelier, il l'utilise comme un modèle préalable, puis ensuite, il le transforme, il le modifie, il l'idéalise et le sublime. Mais il est vrai qu'il utilise son atelier comme un espace de modélisation, comme une sorte de grande scène, si vous voulez. Il utilise les vêtements de sa femme. On a retrouvé la trace dans son inventaire des vêtements, c'est cette fameuse veste en fourrure blanche et jaune qu'on retrouve dans 6 ou 7 tableaux de Vermeer. Donc il utilise certains de ces éléments de sa vie, mais il produit ensuite autre chose. Je veux dire, c'est d'une certaine manière, le rapport de Vermeer à ses tableaux, c'est un peu le rapport de Proust à la recherche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à mon sens, considérer que la recherche du temps perdu est une autobiographie. Et de la même manière, Vermeer ne représente pas sa vie. Il utilise une partie de sa vie pour produire quelque chose qui n'est pas donc un réel assimilable à sa propre vie quotidienne, mais une nouvelle réalité.
Il y en a un qui est d'accord avec vous, ou peut-être êtes-vous d'accord avec lui, c'est Daniel Arras.
Ce qui m'agaçait surtout, c'était la banalité réaliste, c'est-à-dire le fameux réalisme de la peinture hollandaise et le réalisme de Vermeer. Étant donné que je ne pense pas qu'il y ait de réalisme avant Courbet, il y a autre chose, il y a un peintre de la réalité, mais il n'y a pas de réalisme. J'avais le sentiment que Vermeer n'était absolument pas réaliste. Et donc, je me retrouvais avec ma question, mais comment, historien que je suis, comment est-ce que je pourrais essayer de comprendre, entre guillemets, d'essayer de me rapprocher de ce, entre guillemets, mystère de Vermeer, c'est-à-dire comprendre la singularité d'un artiste, Vermeer, non pas à partir de la mienne de singularité, mais à partir de son temps, c'est-à-dire de ses contemporains. Quel a été l'écart de Vermeer par rapport à ses contemporains qui fait que, bon, eh bien, Vermeer est un peintre hollandais comme les autres, mais curieusement, il a un statut exceptionnel aujourd'hui.
Daniel Arras avait vraiment l'art de poser les bonnes questions, Yann Blanc. C'est un extrait d'une série d'émissions qu'il avait proposée sur Vermeer et diffusée sur France Culture. J'en profite pour renvoyer à votre ouvrage, j'ai cité votre ouvrage sur Vermeer, mais vous avez également coécrit avec Florence Jaillet dans l'atelier des artistes aux Beaux-Arts Éditions, dans lequel on trouve notamment un chapitre sur Vermeer avec beaucoup de détails quant à la fabrication vraiment artisanale, vous insistez sur ce terme, des tableaux par Vermeer. Cette idée du réalisme, donc, ce qui agace profondément Daniel Arras, elle est compliquée en réalité. Oui. Parce que, évidemment, ce que vous dites sur la chambre noire et tous les procédés que Vermeer met en œuvre pour peindre l'éloigne du réel. Et en même temps, il joue avec cette idée du réel qui apparaît. Il essaye à la fois de montrer les choses telles qu'elles sont. On a commencé avec ça. Il n'y a pas de mystère parce qu'il montre ce qu'il y a devant lui, donc le réel. Et en même temps, il ne cesse d'introduire dans ses tableaux des indices qui montrent qu'il n'est pas dupe et qu'en fait, le réel n'est pas du tout ce qu'on voit.
Ouais. C'est une question très compliquée. Je pense que l'agacement de Daniel Arras vient du fait que la notion de réalisme est toujours utilisée à tort et à travers, en tout cas à l'époque, dans l'histoire de l'art, y compris dans l'histoire de l'art. C'est une notion un peu banale qu'on peut utiliser parfois par convenance, mais c'est vrai que ça pose un problème. C'est-à-dire qu'à l'époque, d'abord, c'est une notion qui n'existe pas appliquée à la peinture et que qui, lorsqu'elle est utilisée au sens philosophique, veut dire exactement le contraire. Le réel, c'est pas ce que l'on voit, c'est l'idée de ce que l'on voit. Donc c'est un contresens pour le XVIIe siècle. Et puis surtout, aucun peintre du XVIIe siècle, du XVIe ou XVIIIe, ne pense représenter la réalité. C'est la notion de nature qui prime, qui elle aussi est problématique, parce que qu'est-ce que la nature? Est-ce que c'est ce que l'on voit, ce qu'on appelle au XVIIe siècle la nature ordinaire, Romaine nature, ou bien est-ce que c'est la nature en tant que telle, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire la création, c'est-à-dire exactement le contraire de ce que l'on voit, c'est ce qui existait avant que Adam et Ève ne soient chassés du paradis. Donc la notion de réalisme est problématique, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il en parle au sujet de Courbet, parce qu'effectivement la notion apparaît véritablement dans le champ de la peinture, à partir de Champfleury et de Courbet, c'est-à-dire à partir du XIXe siècle, à un moment donné où la notion est affirmée par les artistes. Mais vous avez raison, c'est compliqué parce que Vermeer ne peint pas la réalité. Mais il peint une partie de l'expérience, ou plutôt des faits, des données de sa perception. Il représente une partie de ce que dont j'en ai parlé, la nature ordinaire. Ce qu'on appelle la nature ordinaire dans la théorie de l'art du XVIIe siècle, c'est la nature de ce qui est visible. Le zichtbare wereld, comme on dit en néerlandais, le monde visible. Non, ce qu'on a devant les yeux, le monde des phénomènes. Donc, en ce sens, Vermeer s'approcherait de l'idée qu'on peut se faire aujourd'hui du réalisme. Mais Vermeer est malin. Et je pense qu'Arras s'est beaucoup intéressé. Son livre est extraordinaire sur Vermeer. L'ambition de Vermeer, je conseille la lecture de ce livre fondamental. Il intéresse beaucoup Arras parce que Vermeer est un artiste malin et astucieux. Je vais vous donner un exemple de ce problème du rapport au réel et à la nature. La leçon de musique, le tableau qui se trouve dans les collections royales d'Angleterre. Donc, c'est un tableau qui nous représente ce qui s'apparente à une scène de la réalité, de la vie quotidienne. Une grande pièce, au fond de laquelle se trouve, baignée dans une lumière très intense, une femme de dos jouant d'un virginal.
C'est-à-dire une sorte de piano à l'époque,
de clavecin. Ouais. Voilà. D'ailleurs, un clavecin qu'on a identifié, qui existe. Hein. C'est un clavecin extrêmement précieux et qui était très probablement beaucoup, beaucoup plus cher que le tableau lui-même. Mais passons. Mais donc un clavecin et donc virginal. Et à sa droite, un homme debout qui tient un bâton, peut-être un professeur de musique, un maître de musique qui donne la cadence, ou peut-être un amant. Enfin bon, j'entre pas dans le détail des différentes interprétations qui sont toutes d'ailleurs totalement compatibles les unes avec les autres. Donc, on a l'impression de voir une scène de la vie quotidienne. Le problème, c'est que Vermeer veut nous montrer que tout cela, c'est faux. Et pour nous montrer que tout cela, c'est faux, il nous montre au-dessus de la tête de cette jeune femme...
Un miroir. Convexe.
Un miroir, alors...
Enfin... En tout cas, qu'il y a un reflet un peu étrange, qui semble pas réaliste pour
voilà.
le coup.
C'est probablement un miroir qui est légèrement penché. Il est un peu accroché.
Et pensé.
Pensé et penché. Mmh. Voilà, exactement. Et ce miroir nous montre non seulement la tête, une partie de la tête, donc de face et en plongée de la joueuse de musique, mais également les pieds du chevalet du peintre. Alors, c'est très intéressant parce que Vermeer joue, non pas sur les mots, mais sur les images. Le miroir est un objet, est un emblème ambivalent. C'est à la fois l'emblème de la ressemblance, donc ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'emblème du réalisme. Il y a d'ailleurs des expressions au XVIIe siècle, un théoricien de l'art qui dit que la peinture est un miroir de la nature. Bon, on pourrait se dire dans ce cas-là, mais pourquoi ne parle-t-on pas de réalisme à ce moment-là? Et en même temps, le miroir, on sait que c'est un objet déformant, qui inverse la réalité. Et qui, à l'époque d'ailleurs, ne le reproduit pas exactement, parce que les miroirs au XVIIe siècle n'ont pas la qualité de nos miroirs. Donc souvent, les teintes sont un peu différentes. Si bien qu'au XVIIe, depuis très longtemps, en réalité depuis la fin du Moyen-Âge, le miroir, c'est aussi un emblème de la fausseté.
On appelle ça les sorcières, non?
Oui,
c'est pas l'autre
tout à fait.
Nom,
les miroirs aux sorcières, c'est les miroirs convexes. À l'époque, il y a une vraie fascination en Europe, et notamment aux Pays-Bas, pour les miroirs, pour ce qu'on appelle aussi les miroirs de Claude, qui sont en fait des morceaux de métal poli, qui donc sont des miroirs, mais avec un effet d'opacité qui obscurcissent les couleurs. Et le miroir, comme la chambre noire, ça n'est donc pas la représentation fidèle et mimétique de la nature, c'est une sorte de réinterprétation de la nature. Et tout cela, donc, Vermeer nous le montre dans un miroir. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, je crois que ce qu'il nous dit, c'est que, au fond, la peinture n'est jamais autre chose qu'une fiction qui se veut réelle, qui se veut illusionniste. Je pense que la notion d'illusion est une notion qui est très fortement présente dans la théorie de l'époque. On parle de tromperie, d'ailleurs. On parle de la notion de trompe-l'œil. Mais la tromperie, elle vaut du point de vue des sens comme du point de vue de l'esprit. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles cette expression est fortement utilisée par Descartes lorsqu'il cherche à savoir quelle est la certitude infinie. Il commence par dire que les sens sont parfois trompeurs. Donc l'idée de la tromperie est centrale ici. Donc de ce point de vue, à mon avis, ce qui compte chez Vermeer, comme chez ses artistes, c'est à produire des fictions, je dirais, qui ont l'apparence de la réalité. Mais vous voyez que de ce point de vue-là, on est très loin de cette notion de réalisme qui nous donnerait le sentiment que ces tableaux sont de purs reflets de la réalité.
C'est-à-dire que cette leçon de musique serait d'abord une leçon de peinture.
Effectivement, c'est un tableau qui nous parle de la musique, mais qui nous parle aussi de la peinture et qui nous montre qu'on est toujours face à un ensemble de codes, face à un ensemble de feintises, comme on le disait à l'époque.
D'ailleurs, si on décrit le tableau précisément, parce qu'effectivement, vous avez cité les éléments importants qui sont au centre du tableau, mais le centre ici est au fond.
Oui. Hein,
et on a au premier plan une table recouverte d'une nappe qui semble très épaisse, comme une forme de tapis presque, oui, brodé, une tapisserie. Et au second plan, enfin avant d'arriver à l'élève et à son professeur, on a un luth ou une viole couchée à terre qui semble barrer ici le chemin pour atteindre cette femme. Et on a une perspective très très franche, mais qui semble indiquer un chemin à suivre. Il y a une profondeur de champ ici qui est très impressionnante.
Alors on peut l'analyser de deux manières. Ce qui est intéressant d'abord, c'est cette mise à distance, qui est d'ailleurs relativement rare dans les tableaux de Vermeer. C'est un tableau intéressant de ce point de vue-là, c'est que vraiment il laisse un grand vide au premier plan.
Je rappelle qu'il est en ligne sur le site de l'émission, comme ça on peut le regarder en vous écoutant, Yann Blanc.
Et donc cette mise à distance, elle est intéressante parce que justement, elle donne le sentiment qu'il existe deux mondes. Le monde du peintre lui-même, qui est représenté à travers son reflet dans le miroir, et le monde de ceux qu'il représente, cette sorte de scène. C'est d'ailleurs intéressant de voir que dans ce tableau, comme d'autres tableaux de Vermeer, les figures sont presque des modèles. Les visages leurs traits sont effacés, estompés. On a presque l'impression de simples silhouettes. Et on peut avoir le sentiment de voir dans ces figures les mannequins qu'utilisait Vermeer, même si d'autres figures évidemment sont beaucoup plus individualisées. Donc il y a d'abord cette mise à distance, et donc peut-être faudrait-il s'interroger sur les raisons pour lesquelles Vermeer met à distance ce sujet. Et il me semble qu'une des raisons possibles de l'expliquer, ce serait une deuxième façon de voir le tableau, qui serait au fond le tableau comme un piège. C'est-à-dire qu'au fond, le tableau ici nous oblige à regarder dans le fond de la composition. La première plan est dans une sorte d'obscurité ou une sorte de pénombre, et la grande lumière très vive qui attire les masses les plus claires, qui insiste sur les teintes dorées du virginal, qui semble presque une sorte d'élément qui nous attire. Vermeer nous tente un piège narratif, nous tente un piège discursif. Nous entrons de plein pied dans l'image, si j'ose dire. Le vide au premier plan semble nous dire mais entrez donc, entrez dans cette image. On arrive au virginal, on se dit ah oui, nous sommes dans le réel. Et puis le miroir nous trompe définitivement en nous montrant que tout cela, c'est une fiction, que derrière nous, nous avons le chevalet du peintre.
Enfin, nous trompe au contraire. Nous donne des leçons de lucidité. Le miroir nous indique que ceci n'est qu'une fiction, que ce qu'on tient pour vrai n'est qu'... Enfin, une fiction dans la fiction, parce qu'on regarde un tableau. Donc déjà, on sait que c'est pas une fenêtre ouverte vers le monde, c'est un tableau. Donc c'est le résultat aussi d'une invention et d'une réalisation. Et dans ce tableau, le peintre apparaît comme si, à la fois, il ouvrait le rideau et le refermait d'un coup. C'est-à-dire qu'il dévoile ses propres cartouches.
Oui, tout à fait. Cette tromperie est instructive. C'est-à-dire que c'est une façon... Je pense que chez Vermeer, comme beaucoup de ses artistes, de ses contemporains, parce que ces artistes sont attachés à la représentation de la nature, pour eux, ce qui existe véritablement, et la chose qui existe véritablement, c'est le phénomène, c'est l'apparence. Il n'y a d'être qu'apparaître, au fond. Et je pense que c'est cela aussi que nous montre Vermeer. C'est que vous avez beau croire à l'essence de ce que vous voyez, au fond, tout cela n'est que fabrication.
Il est anti-platonicien.
Il est, à mon avis, je ne suis pas certain qu'il connaissait Platon, mais en tout cas, dans sa pensée artistique, c'est un peintre qui est absolument anti-platonicien. Il est beaucoup plus proche de certains savants de cette époque, comme Francis Bacon, qui concevait la peinture comme une expérience. Une expérience qui ne part pas d'un ensemble d'idées préconçues, de concepts.
Ouais, parce que quand on dit anti-platonicien, juste précisons, platonicien, c'est celui qui postule l'existence d'une idée qui précède, qui au-dessus du monde, ou en amont même du monde. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les idées, de l'autre, il y a le monde sensible. Et c'est l'inverse ici.
Oui. Je dirais, dans la caverne, Vermeer choisirait les ombres. Même si ces tableaux n'ont pas des ombres très fortes, clairement, de son point de vue, ce qui compte et ce que peint un artiste, ce sont les ombres sur la caverne. Et tout le reste, ça n'est que vue de l'esprit, si j'ose dire. Et ce que nous montre ce tableau, ce qu'il met en abîme, au sens littéral du terme, dans ce miroir, c'est précisément, je dirais, pas simplement le fait qu'un tableau, c'est une fabrication, mais même peut-être que le monde même est une fabrication. Qu'au fond, on ne passe jamais de soi-même au monde sans construire ce que nous voyons. Il y a quand même cette idée selon laquelle la perception elle-même est une construction.
Parce que c'est quand même un peintre de la perspective.
C'est un peintre de la perspective, et c'est un peintre pour lequel la perspective est elle-même un moyen de fabriquer le monde.
Là, il faut l'entendre dans tous les sens du terme, la perspective. Hein, c'est pas simplement la technique de peinture, c'est aussi la perspective d'un individu sur le monde, siècle baroque.
La perspective, c'est à la fois une technique qui permet de, dans un tableau, dans une image de dimension, de reconstituer la tridimensionnalité, mais c'est aussi un moyen d'accrocher le spectateur à l'image, parce qu'elle permet de déterminer un horizon, de permettre de déterminer un point de vue spécifique, de déterminer la distance idéale du spectateur à l'image. Donc la perspective, c'est aussi un moyen d'organiser, de canaliser la perception qu'on peut avoir du tableau. Et de ce fait, la perspective, c'est aussi un point de vue. C'est-à-dire qu'on va fabriquer un point de vue par rapport à l'image.
Un tout dernier mot, Yann Blanc. Daniel Arras, dans l'extrait que nous avons diffusé, s'interrogeait sur les raisons de ce statut exceptionnel qu'on lui accorde aujourd'hui. Au moment où nous parlons, nous sommes en plein cœur de l'exposition qui a lieu au Louvre. Les salles ne désemplissent pas. Les queues pour atteindre les salles de l'exposition tournent autour de la pyramide du Louvre tellement il y a de monde. Comment vous expliquez ce statut exceptionnel qu'on lui attribue aujourd'hui?
Je pense qu'il y a des raisons intrinsèques et des raisons extrinsèques. Les raisons extrinsèques, c'est les conditions dans lesquelles ce peintre a été redécouvert au XIXe siècle. C'était quasiment un miracle historiographique dont j'ai évoqué les conditions tout à l'heure, avec Tory Burger qui découvre ce peintre avec ses tableaux qu'il juge absolument extraordinaires alors que son nom lui est totalement inconnu. Donc il y a cet aspect-là, d'abord l'aspect redécouverte. Et je pense aussi que Vermeer, dans la manière même dont il a conçu sa peinture, dont il essaie de concevoir ce rapport à la gloire, passé, présent et avenir, a lui-même mis en place dans son œuvre les conditions de la réussite dans la postérité.
Vous voudrez nous dire pourquoi demain ?
Avec plaisir.
À demain. Vermeer 65, c'est The Walkman qui chante sur Vermeer. Il y a beaucoup de chansons d'ailleurs consacrées à Vermeer, Yann Blanc. Vous nous les avez indiquées. Un grand merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. Je renvoie à notamment deux de vos ouvrages en lien avec le thème. Donc le magnifique Vermeer, un ouvrage gigantesque et volumineux et absolument, unique et très précieux aux éditions Citadel et Masno. Et puis dans l'atelier des artistes avec Florence Jaillet aux Beaux-Arts Éditions. Et puis vous avez fait paraître également un ouvrage du même genre consacré à Van Gogh. Alors peut-être qu'un jour vous viendrez nous en parler aussi.
Avec grand plaisir.
En tout cas, on se retrouve demain pour parler. On a fini sur le statut exceptionnel de Vermeer. On parlera de la vie ordinaire, de son rapport aux femmes.
À demain.
À demain, Yann. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver comme tous les jours la chronique de Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Eh bien peut-être le savez-vous, mais le 14 juillet prochain n'aura pas seulement lieu notre fête nationale, le 14 juillet 2017 sera aussi le bicentenaire de la mort de Germaine de Staël. C'est donc l'occasion pour nous de nous pencher toute cette semaine sur un seul et très bel ouvrage de Stéphanie Genon, paru aux éditions de Rose, La Chambre Noire, Germaine de Staël et la pensée du négatif. Alors pour rappel, Germaine de Staël, c'est une écrivaine, philosophe, fille du ministre des Finances de Louis XVI, Jacques Necker, mais aussi de la femme de lettres Suzanne Necker. Elle a été favorable à la Révolution, mais exilée à sa suite en Suisse, dans le château de Copé, où elle faisait alors salon, notamment avec le libéral Benjamin Constant. Et on doit à Germaine de Staël tout un ensemble de textes, des romans sur des femmes en quête d'émancipation, c'est par exemple Delphine et Corinne, des essais philosophiques sur Rousseau, sur l'influence des passions sur le bonheur de l'individu et des nations, ou encore des essais littéraires tels de l'Allemagne, de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, ou encore, et ce n'est pas tout, des réflexions sur la traduction ou le suicide. Alors on le voit bien avec cette production, mais aussi avec un tel parcours, Germaine de Staël s'est l'excès. Je cite, trop de mots, trop d'amants, de scandales, d'audace, de provocations et d'éclat. Mais c'est trop de mots d'audace et d'éclat ne sont en fait qu'un mythe que l'on a construit selon Stéphanie Genon. Le mythe staëlien qui serait dans le trop. Comment donc écarter ce mythe pour cerner vraiment Germaine de Staël? Et comment la cerner si l'on ne peut pas s'en tenir à la dimension prolifique de son œuvre? Peut-on d'ailleurs le faire en partant à l'inverse de ce qui manque, de ce qui fait défaut? Eh bien, c'est le pari pourtant de cet ouvrage, mais peut-être aussi de toute approche d'une œuvre et de son auteur. Et pourquoi pas de chacun d'entre nous? Essayer de se définir à partir non pas de ce que l'on a et de ce que l'on est, mais à partir de ce qui nous manque. C'est une négation, une chambre noire, un inconscient, un infini, comme le disait Germaine de Staël, qui sera positif et créateur. Je rappelle, Adèle, le titre de l'ouvrage, c'est « La chambre noire, Germaine de Staël et la pensée du négatif ». C'est paru aux éditions de Rose et c'est de Stéphanie Genon.
Merci Géraldine, les chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. Si vous voulez réécouter cette émission, sachez que c'est possible en vous rendant sur le site des chemins de la philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter absolument quand vous voulez et où vous voulez. Rendez-vous également sur nos pages Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. Un grand merci à Nicolas Bouteloup qui a préparé cette émission, ainsi qu'Antoine Ravon, Marianne Chasseur, Livia Garrigue, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Guillaume Ledu à la prise de son aujourd'hui. Restez à l'écoute sur France Culture.